Le judaïsme a cela de particulier de porter une attention extrême à tout ce qui est matériel. Alors que dans d'autres philosophies ou dans d'autres courants religieux, la matière est généralement considérée comme antédéique, quelque chose qui est anti-Dieu, anti-spiritualité, et c'est certainement pas en cela que l'on trouvera l'harmonie, le confort ou la hauteur spirituelle. Tout au contraire, le judaïsme porte une attention particulière aux objets matériels et à la valeur des choses. D'ailleurs, notre paracha, paracha Tazria Metzora, qui parle des plaies qui touchent le Metzora, quelqu'un qui avait une pseudo-lèpre, nous devons rappeler encore une fois ce que nous dit Maïmonide. Beaucoup de personnes effectivement traduisent trop facilement Metzora par le lépreux. Il ne s'agit pas là, nous dit Maïmonide, d'une affection naturelle, quelque chose d'une affection dermatologique normale, mais ici c'était quelque chose de totalement surnaturel qui touchait une personne qui, de par sa conduite, particulièrement du fait de la médisance, du fait de l'hypocrisie de sa médisance, se voyait, pardon, se voyait affecté de ses plaies, qui laissait en fait rejaillir ce qui, à l'extérieur, ce qu'il était vraiment intérieurement. C'était là donc le symbole et la marque du Metzora. Quoi qu'il en soit, ce Metzora était le seul homme de tout Israël qui devait être mis en quarantaine, séparé du reste de la communauté. Ça, c'est un fait très très rare, puisque l'idée communautaire est extrêmement importante dans le judaïsme, et bien au contraire, l'homme a besoin d'un contexte communautaire a priori pour s'intégrer et pour évoluer. Là, l'homme qui se serait égaré jusqu'à devenir un Metzora est mis en quarantaine. D'ailleurs, ce n'est pas le sujet de notre propos aujourd'hui, mais rappelons cette explication extraordinaire de nos sages, dit cet homme qui a voulu par sa médisance et par ses calomnies séparer son prochain du reste de la communauté, diviser la communauté, doit subir au moins un moment cette vie à part pour pouvoir se remettre en question. Ainsi, cela a deux facettes. Cette mise en quarantaine va tout d'abord permettre de vivre l'expérience de ce qu'il a voulu faire endurer à un autre, c'est-à-dire celui qui serait mis au banc de la société. Et deuxième chose, le fait d'être tout seul et en quarantaine va lui permettre de réfléchir à ce qu'il a fait en essayant bien sûr d'en tirer des conclusions pour s'améliorer. Donc cet homme qui était un des seuls, pardon, le seul à être mis en quarantaine dans l'idée communautaire, c'est bien pour souligner la gravité de ses actes. Cet homme-là ne pouvait devenir Metzora qu'après la proclamation d'un Kohen. D'ailleurs, sur notre site, nous avons cette semaine une autre leçon sur l'idée de l'importance de la visite du Cohen, qui porte le titre Aimer comme un Cohen. Cet homme n'était pas tout de suite et directement affecté à même son corps. Nos sages nous disent que cela, comme nous dit la Torah, venait en trois niveaux. Il y avait trois stades plutôt, trois étapes. Tout d'abord, l'affection pouvait toucher sa maison, puis l'affection de la tzaraat pouvait toucher ses habits, donc cela s'approchait encore plus de lui, et enfin, s'il n'avait pas tiré de leçon, l'affection touchait son propre corps. Et cela avait donc pour but ces trois étapes, faire prendre conscience de la personne. Mais à chacune de ces étapes, c'était bien le Cohen qui venait constater et proclamer l'idée de perte de pureté et qui venait constater et dire que la maison ou le vêtement ou la personne était impure et qu'il fallait procéder donc à une phase de purification. Et là, dans la paracha, dans la loi aussi énoncée par Maïmonide, nous apprenons quelque chose d'assez extraordinaire. Le Cohen qui, lui, a priori, n'avait rien à voir, spirituellement parlant, avec ce type de personnage, faisait un effort, si on peut dire un sacrifice, de se déplacer jusqu'à cet homme pour constater chez lui si la maison était affectée par la tsarat. Dans ce cas, tous les objets qui pouvaient s'y trouver devenaient aussi impurs. Cette impureté était passagère, bien sûr. Après un certain temps, les objets pouvaient être trempés au mikvé et regagner leur statut de pureté. Mais voilà que la Torah impose à ce qu'avant que le Kohen vienne constater la plaie qui est dans la maison, vienne la juger et vienne proclamer l'impureté, ce qui deviendra donc irrévocable à partir du moment de la proclamation, c'est-à-dire que c'est une impureté qui s'impose non pas a fortiori, mais seulement à partir du moment de la proclamation. C'est pourquoi le Cohen, qu'on l'a déplacé, patienté à l'extérieur de la maison, ne n'analysait pas encore la plaie sur les murs, et il attendait tout simplement que l'on vide les objets qui se trouvaient dans la maison. Dans quel intérêt? Parce que s'il venait à proclamer que la maison est impure, les objets qui s'y trouvaient le devenaient aussi. Par contre, si on vidait la maison de tous les objets qui s'y trouvaient, on évitait ainsi de rendre impurs les objets après la proclamation du Cohen. Ça, c'est une chose vraiment extraordinaire. Nous laissons patienter, attendre un Cohen dont la vocation est de consacrer sa vie à des élévations spirituelles énormes pour débarrasser une maison d'objets qui, même dans le cas où ils allaient devenir impurs, le seraient que pour un petit temps. De là, nous tirons un enseignement extraordinaire sur la valeur de choses. Et pourtant, ces objets ne sont pas seulement des objets d'or et d'argent, mais Rashi appelle cela Keli Cheres, des objets en argile, même de simples poteries étaient sorties. Ou selon même Maïmonide, qui utilise le terme de divrei reshout, des accessoires. Même ce qui était accessoire devait quitter la maison avant la proclamation du Cohen. Et là, nous voyons donc l'attention que porte la Torah pour les objets qui nous appartiennent. Ces objets ont pas seulement une valeur sentimentale, mais une forte valeur aux yeux de la Torah. Et pour cela, on ne les laissera pas sous le coup de la proclamation d'impureté dite par le Cohen, même pour un instant. Et c'est au Cohen d'attendre, de patienter le temps que l'on débarrasse ces objets. C'est extraordinaire. Cette attention que l'on porte à ces objets, et cela nous l'avons vu différentes fois dans la Torah, jusqu'à même raconter que Yaakov traversa à nouveau le fleuve, tout seul. Et c'est là où il rencontra l'ange représentant de Esav, contre qui il s'est battu. Tout simplement, ce soir-là, Yaakov traversa le fleuve parce qu'il avait oublié des petits objets. En était-il, cet homme qui était devenu tellement riche chez Lavan, à cette importance de récupérer de petits objets? Non, certainement pas. Mais les justes savent évaluer les choses à leur véritable valeur. Chaque chose qui existe, qu'il soit les nôtres, qu'il soit à nous, ou qu'il soit aux autres, ont une valeur inestimable parce qu'ils existent déjà, parce qu'ils sont créatures de Dieu, parce qu'ils sont des objets nécessaires, même s'ils ne sont que des accessoires. Et en cela, nous exprimons toute l'idée du judaïsme, qui est d'élever, de purifier, de sanctifier la matière. Le but même à ce que l'expérience spirituelle du juif ne se trouve pas dans les mondes et les dimensions élevées et angéliques, bien ici-bas et sur terre, vient justement du fait que le but de la création est de faire de ce monde matériel et de chacun des détails de ce monde matériel une résidence pour Dieu. C'est la raison pour laquelle nous portons une telle attention à ces objets. Ces objets ont une telle valeur. Ainsi, nous avons là une deuxième idée. Une idée qui nous rattache à celle de la Géoula. Puisque, comme nous venons de le dire, cela vient souligner, encore une fois, l'importance, la valeur des choses, l'importance des objets matériels, qui fait donc écho à la raison d'être de la création. Et ces simples objets que nous élevons, que nous raffinons, font de ce monde un monde différent. Un monde où chaque chose a une valeur, où chaque être a une valeur. Un monde qui marche vers la venue de Mashiach, qui, rappelons-le, est appelé dans le traité de Sanhedrin, Metzora, celui qui est affecté aussi par les plaies du monde, que Dieu libérera au moment de la Géoula, et, de la même manière, qu'au moment de la sortie d'Égypte, Dieu n'a pas retenu le peuple juif en Égypte. Tout de suite, il les libéra, armés de richesses. C'est ainsi que nous serons, nous aussi, libérés par le Mashiach, en un instant, nous aussi armés de richesses matérielles et spirituelles. Yehi Adonai nous moreh nous verabenu melech Mashiach l'olam v'ed.